j'ai invité la réalisatrice Manuelle Blanc, qui a réalisé Artiste femme à la force du pinceau et aussi Objectif femme avec sa collègue Julie Martinovic. Alors, tout ça, c'est pour le 20e siècle et pour la peinture, ça traverse plusieurs siècles. Alors, bonjour, mesdames.
Bonjour.
Artiste femme à la force du pinceau, ça veut faire connaître, d'une part, les femmes peintes de la Renaissance jusqu'au 19e siècle. Comment avez-vous retracé ces peintres oubliés dans les archives du Louvre, à la Bibliothèque nationale, sur Internet? Comment?
Ah ben pas forcément aux archives du Louvre, parce que le propos du film, en fait, c'est de montrer que toutes ces femmes ont été oubliées, méconnues, elles sont pas dans les livres d'histoire, et au musée du Louvre, elles y sont pas vraiment. Donc en fait, c'était plutôt un travail que j'ai fait en collaboration avec les historiens de l'art, puisque dans le film sur les femmes peintres, il y a quatre historiens de l'art qui m'ont gentiment pointé les femmes artistes qu'il serait bon de faire redécouvrir.
Et vous avez choisi, je crois, une douzaine de ces femmes
Un petit peu moins, on est plutôt à neuf femmes, okay. Et qui traversent en fait effectivement quatre siècles de l'histoire de l'art.
Et sur quels critères
En fait, mon idée, c'était à chaque fois de montrer que chaque femme avait fait avancer l'histoire globale des femmes. Donc mon idée, c'était de montrer que, en fait, en prenant une figure, on pouvait traiter d'un thème. Par exemple, la première femme, elle s'appelle Sophonisba Anguissola. C'est un nom qui est complètement oublié aujourd'hui. Et elle a travaillé avant tout sur l'autoportrait. Et c'était de montrer justement que beaucoup de femmes ont travaillé sur l'autoportrait comme étant un manifeste presque politique, on pourrait dire, revendicatif de la place des femmes dans l'histoire de l'art. Mmh. Et d'autres ont suivi avec le même mode.
Et comme on les a oubliés, est-ce que ça a été difficile de retrouver les tableaux de ces femmes-là?
Oui, c'est assez difficile parce qu'effectivement, il y a peu de catalogues, il y a peu... Dans les livres d'histoire de l'art, elles ne sont pas mentionnées parce que, d'une manière générale, ça a été écrit essentiellement par les hommes qui ont mis aux oubliettes ces femmes. Et puis, par exemple, je parle d'une femme comme Artemisia Gentileschi.
Et bon, qui est peut-être plus connue.
Voilà, qui est plus connue, mais dont les tableaux sont restés pendant très longtemps dans les sous-sols des musées. Il a fallu attendre qu'un historien de l'art au XXe siècle se penche sur son travail et réattribue plein de tableaux à cette femme artiste. Parce que souvent aussi, alors qu'elles étaient très connues à l'époque, leur nom n'était pas mentionné, donc les tableaux ont été attribués à des hommes. Donc il y a eu tout un travail qui a été fait pour retrouver et réattribuer les tableaux aux auteurs.
Et il y a l'historien Poivert qui raconte avec conviction les détails sur la vie de certaines artistes. Est-ce que ces interventions-là ont été filmées en continu ou c'est des blocs que vous avez fait?
Alors, Michel Poivert, c'est un historien de la photo, donc c'était sur le second film.
Ah.
C'était, mais c'est effectivement. Et dans le film sur les femmes peintres, c'est un historien qui s'appelle François Coulon. Et j'ai oublié votre question.
Est-ce que vous avez filmé ça en continu,
Oui, bien sûr. Oui, j'ai filmé en continu. Je leur ai demandé de traverser les quatre siècles. Et puis, bien évidemment, avec Julie Martinovic, qui est donc la monteuse du film sur les femmes peintres, nous avons sélectionné les meilleurs moments.
Et il y a aussi une voix off qui commente des œuvres accompagnées d'une musique, malheureusement, musique qui a couvert la voix lors de la représentation au Musée des Beaux-Arts. Est-ce que c'est réglé, ça?
Alors là, c'était la grande déception de cette projection, parce qu'effectivement, le fichier, en tant qu'auteur, c'est pas moi qui ai envoyé le fichier, c'est le producteur.
Ah.
Et là, il y a eu un petit souci, effectivement, le jour de la projection, et on entendait très mal la voix commentaire, et elle était noyée. C'était très, très dur à entendre. Mais ça va être réglé.
Mais là, si vous remportez un prix et qu'il est représenté dimanche, ce sera réglé?
Ben, j'espère bien.
Et il y a Louise Vigée-Le Brun, qui était surtout portraitiste de l'aristocratie. Elle est même allée à la cour des tsars en Russie. Moi, je crois que la raison de son oubli, c'est surtout qu'elle était portraitiste et c'était des portraits de commande.
Je ne sais pas si c'est la raison de son oubli. Là, je ne pourrais pas vraiment répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'Élisabeth Vigée-Lebrun, elle a connu son heure de gloire au XVIIIe siècle, qui est un siècle justement où enfin les femmes se sont imposées, où le roi Louis XIV, pour parler vraiment de l'histoire de France, a ouvert l'Académie des Beaux-Arts aux femmes. Le malheur, c'est qu'elle a ouvert l'Académie quelques années avant la Révolution française, et Élisabeth Vigée-Lebrun, qui avait fait des portraits des notables de l'aristocratie française, elle est partie, elle a fui au moment de la Révolution. Et moi, ce que j'ai appris...
C'est-à-dire en Italie, d'abord.
En Italie, puis en Russie. Effectivement, elle a fait tout un périple avant de revenir en France. Mais ce que je voudrais dire, en fait, ce qui était très intéressant et que moi j'ai découvert en réalisant ce film, c'est que la Révolution française n'a pas été vraiment un moment important, justement, pour les femmes.
C'est même là qu'on en a oublié plusieurs.
Voilà, et qu'on a fait en sorte que les femmes soient mises de côté.
Et est-ce que vous avez l'intention de donner suite pour faire connaître d'autres femmes?
Alors, j'aimerais beaucoup faire la suite, hein, puisque le film, en fait, s'arrête à l'ouverture des Beaux-Arts à Paris, donc en 1900. Donc, le film s'arrête vraiment au début du XXe siècle. Et il faudrait raconter l'histoire du XXe siècle, qui est une histoire qui mêle justement l'histoire des femmes peintres au mouvement féministe. Et dans les années 70, elles se sont imposées, et avec des médiums différents, notamment la performance, qui était très en vogue et qui a permis à ces femmes, voilà, de proposer un autre regard aussi. C'est parce que c'est ça qui est intéressant au XXe siècle.
Ouais.
C'est que pendant des siècles, ce sont les hommes qui ont posé un regard sur les femmes, et au XXe, ce sont les femmes qui ont enfin donné leur propre regard sur leur corps.
Pour le documentaire Objectif Femmes, donc vous êtes deux réalisatrices pour ce film, il y a Julie Martinovic. Et comment c'est partagé, cette création cinématographique, entre vous deux?
En fait, Julie Martinovic travaille depuis très longtemps avec une photographe qui s'appelle Sarah Moon et connaît très bien la photo. Et comme vous l'avez un petit peu compris, j'ai un petit fond féministe. Et on s'est dit qu'à nous deux, on pourrait justement monter un projet qui allierait nos deux passions. C'est pas une passion d'être féministe, mais nos deux volontés. Et justement de continuer, on va dire, l'histoire, puisque les femmes peintres s'arrêtent au début du XXe siècle. Et là, ça permettait, avec le médium photographique,
d'entrer dans le XXe.
Voilà, de parcourir le XXe siècle.
Et les femmes photographes, il y a beaucoup plus de... C'est beaucoup plus vaste, il y a beaucoup plus de documents. Est-ce que ça a été plus facile aussi au niveau des archives?
Pas du tout.
Pas du tout?
Pas du tout, c'est parce que c'est la même problématique. On ouvre une encyclopédie de la photo, elles n'y sont pas. En fait, avec Julie, on avait fait un petit peu une comptabilité et on s'était aperçu que sur un livre de photos, quand on dépasse les 10% de femmes présentes, on peut qualifier ce livre d'histoire de l'art de féministe. Parce que globalement, elles sont autour de 5%. Donc là, ça a été très compliqué. À nouveau, il y a tout un travail de recherche pour trouver toutes ces femmes.
Et il y a plusieurs interventions de spécialistes de la photographie, comme on voit apparaître dans le film. Est-ce qu'ils ont toujours été filmés dans leur lieu de travail?
Oui, globalement oui. Il y a Martha Gilly, qui est donc la directrice du Jeu de Paume, qui est le musée, on va dire, consacré à la photo, qui est une directrice très volontariste, qui justement a pour volonté de mettre en valeur les femmes photographes. Il y a Marie Robert du musée d'Orsay, qui était filmée aussi au musée d'Orsay, parce qu'il y avait en fait l'année dernière une exposition qui s'appelait « Qui a peur des femmes photographes ?» Donc aussi avec cette volonté de mettre en lumière les femmes photographes, alors que dans les collections du musée d'Orsay, c'est loin d'être le cas. Et ensuite, non, après on a été avec Michel Poivert, dont vous parliez la dernière fois. Non, lui, il a été filmé dans un autre endroit.
Et dans l'une des interventions, on dit que comme il n'y avait pas l'histoire des siècles derrière, ça permettait d'être plus libre aux femmes de l'époque. C'est vraiment le cas?
Oui, c'est exactement le cas. C'était la chance, en fait, pour les femmes. C'est-à-dire que d'une part, il n'y avait pas cette domination masculine séculaire qui faisait qu'elles étaient exclues, en fait, des lieux de création et de diffusion. Et puis l'autre chance, c'est que la photographie, au début, n'était pas considérée considéré comme un art. Donc on laissait les femmes s'amuser, entre guillemets, et justement elles savaient faire, justement transformer un amusement en œuvre d'art. Mmh. Justement, on parle de Juliette Cameron, ouais, qui a justement hérisser la photo au rang d'art, comme on dit.
Ouais, parlez-nous de sa particularité.
Ben, la particularité de Juliette Cameron, c'est justement d'être à la fois une femme qui, comme le dit très bien Michel Poivert dans le film, en fait a déréglé l'objectif, a fait en sorte que le flou, mm-hmm, ne soit pas une erreur, un accident, mais une volonté artistique. Ouais. Et donc, elle a vraiment eu un univers bien à elle qui a été repris ensuite, mais elle a inventé quelque chose. Et on reproche souvent aux femmes de ne pas savoir inventer. Mmh. Et là, en l'occurrence, on est face à une femme qui a vraiment ouvert une voie.
Mmh. Et il y a l'artiste aussi, Claude K1, d'abord. Est-ce que c'est un nom d'emprunt ou
Oui, c'est un nom d'emprunt. C'est un nom d'emprunt. Ouais, c'est un nom de...
À cause de la difficulté...
Elle s'appelle Lucie Schwab.
Et à cause de la difficulté d'être femme dans le milieu ?
D'une part, je pense que c'est pas anodin qu'elle ait pris un prénom masculin, Claude. Et puis, elle était juive. Et donc, ça aussi, c'est pas anodin. Parce que beaucoup de femmes photographes, notamment, étaient juives, lesbiennes, mmh, comme Claude Cahun. C'est une artiste surréaliste absolument magnifique, qui a fait un travail extraordinaire qu'on aime beaucoup.
Mmh. Et... il y a cette photographe reporter aussi qui est décédée dans un accident de camion en Espagne, quelques mois, ça.
Gerda Taro. Ouais. Alors voilà, là aussi, c'est tout un travail d'historiographie à mettre en place, parce que justement, tout le monde connaît Robert Capa, mm-hmm, mais beaucoup de personnes ont oublié qu'il y avait justement Gerda Taro, qui en fait a combattu avec Robert Capa pendant la guerre d'Espagne, qui a pris beaucoup de photos. Et là aussi, on est sur la problématique de la réattribution, puisqu'elle a fait des photos qui souvent ont été attribuées à Robert Capa, et aujourd'hui on commence à se demander si finalement c'était pas elle. Et ce qui est intéressant avec Gerda Taro, c'est que justement c'est une femme aussi qui a fait en sorte que Robert Capa, elle a créé en fait le mythe autour de Robert Capa, et ça fait partie de ces femmes qui savaient qu'il fallait faire en sorte de créer toute une histoire autour de l'artiste pour qu'il soit reconnue. Et ensuite, ben voilà, malheureusement, elle est morte pendant la guerre d'Espagne et elle a été oubliée. Encore une qui a été oubliée.
Est-ce que vous faites une distinction entre la photographie reportage et la photographie dite artistique?
Moi, j'en fais pas. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de montrer que justement les femmes se retrouvent dans toutes les disciplines artistiques et dans tous les styles photographiques. Entre artiste femme à la force du pinceau qui s'intéresse à la peinture et objectif femme qui s'intéresse à la photo, en fait l'idée c'était que sur les femmes peintres, comme il y en avait très peu et qu'il fallait parcourir beaucoup de siècles, j'ai souhaité en fait focaliser sur certaines personnalités, alors que sur la photographie, avec Julie, on a pris le parti de travailler sur les différents courants et les différents styles photographiques, pour montrer que par exemple dans la photographie de mode, il y a beaucoup d'hommes, très peu de femmes, et que si on cherche, eh ben, il y en a aussi. En fait, et dans la photographie de guerre, qui est a priori un lieu où on se dit, oh là là, il y a que des hommes qui pourraient aller avoir le courage d'aller sur le front de guerre, eh ben non, pas du tout. Il y avait aussi des femmes.
Oui, il y avait entre autres Diane Arbus.
Alors, Diane Arbus, c'est encore un autre style. Mm-hmm. C'est une femme très...
Qui a commencé dans la mode et qui a...
Oui, exactement, tout à fait.
Son parcours. Oui. Vous, on dirait que vous l'esquivez.
C'est pas qu'on l'esquive, non? C'est que, en fait, sa famille refuse qu'on montre ses photos. Et pour nous, ça a été très dur parce qu'en fait, elle aussi, elle a ouvert une voie, elle a créé un style. Ouais. Et en fait, on nous a pas autorisé à montrer ses photos. Donc, dans ce film, Objectif Femme, en fait, notre idée, c'était de donner la parole à 4 femmes photographes d'aujourd'hui et de voir avec elles quelles sont les femmes dans l'histoire de la photographie qui les intéressaient. Okay. Et donc, on a donné la parole à une femme photographe qui s'appelle Jane Evelyn Atwood. Et elle a commencé la photo parce qu'elle avait été impressionnée par Diane Arbus. Et donc, on fait dire à Jane Evelyn Atwood qu'on ne peut pas montrer de photos de Diane Arbus. Mmh. Et c'est vraiment un gros, gros problème.
C'est arrivé à plusieurs reprises que vous aviez des...
Oui, c'est tout le problème. Ouais, c'est la problématique des films d'archives, c'est qu'on est dépendant aussi de la permission des ayants droit. Mmh. Et par moment, soit ils refusent, soit ils demandent des tarifs tellement hauts qu'on ne pouvait pas les mettre. Et de toute façon, on ne pouvait pas être exhaustive. Donc, voilà.
Il y en a trop. Eh bien, merci beaucoup, Manuel Blanc. Et le film, malheureusement, n'est pas encore, disons, repris. On verra peut-être ce soir ou demain les films qui seront repris dimanche. Ah, donc, c'est à surveiller. Et je vous souhaite une bonne suite pour ces séries de femmes artistes.